Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. Je voudrais d'un mot remercier Denis Mola et la librairie Mola de m'avoir convié à cette présentation de mon ouvrage sur le Conseil de l'Europe. Et puis je me propose de vous faire une petite présentation à la fois de cette organisation, mais également du contenu de ce livre, de vous en expliquer, comme on dit, l'origine et les prolégomènes, et puis évidemment, par la suite, d'échanger avec vous, puisque je pense que tout l'intérêt, c'est aussi de répondre à vos questions. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une organisation à l'égard de laquelle on peut considérer qu'il y a à la fois une très grande familiarité, une très grande proximité, et puis en même temps, dès que l'on creuse un peu, si on se prête à une sorte de quiz, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose de cette structure, cette institution qui s'appelle le Conseil de l'Europe. D'abord parce qu'il y a une vraie ambiguïté sémantique, une vraie confusion sémantique autour de l'expression, et puis aussi parce que tout simplement le temps a passé depuis la création de cette organisation, et le temps, il fait son œuvre. Parfois il permet à une organisation de resplendir, ou en tous les cas de devenir même éventuellement hégémonique, et puis parfois aussi il crée de l'habitude et de la routine. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est la première institution européenne qui a été créée bien avant ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Union européenne, et qui, elle, l'Union européenne, si on faisait un peu la généalogie, hein, avec un arbre généalogique, aurait la figure d'un rameau, d'une branche qui est celle issue du traité de Rome, elle-même inscrite, traité de Rome, 25 mars 1957, cette branche inscrite dans la fameuse CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, 1951-52 pour la CECA, consécutivement à une déclaration historique de Schuman le 9 mai 1950. Ça, c'est l'Union européenne telle qu'on la connaît, 27 États membres. Et puis avant le traité de Rome, avant 57, est apparue une institution qui, elle, est née le 5 mai 1949, consécutivement à un traité, avec un traité qui est le traité de Londres, instaurant cette organisation dont le siège par traité a été fixé, situé à Strasbourg. Et ça s'appelle le Conseil de l'Europe. Voilà. Alors, il se trouve que on ne connaît plus exactement ce que c'est que le Conseil de l'Europe, parce que l'air du temps, la facilité de l'expression, fait que vous ouvrez votre télévision et vous entendez Conseil européen, Conseil des chefs d'État et de gouvernement, Commission européenne, vous entendez parler de Bruxelles, de Luxembourg, du Parlement de Strasbourg, bref, des villes, des institutions, et puis vous ne savez plus exactement qui fait quoi. Et donc, à côté de tout ce que je viens de citer, à Strasbourg, il y a cette organisation, née le 5 mai 49, disais-je, qui ne rassemble pas 27 États, ça c'est l'Union européenne, mais 47 États, et qui couvre la totalité de la carte de l'Europe, à l'exception de ce qu'on peut considérer comme, alors selon qu'on va être normatif ou pas, une tache blanche, une tache aveugle ou un trou noir, ça dépend la couleur qu'on veut y donner, c'est la Biélorussie qui se situe, le Bélarus, hein, qui se situe dans une situation tout à fait particulière au regard des canons de cette institution qui est le Conseil de l'Europe. D'où vient le Conseil de l'Europe ? Qu'est-ce qui l'a amené à apparaître, et finalement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en tant qu'institution ? Le Conseil de l'Europe, il est la première réponse, la première concrétisation d'un événement qui, pour le coup, est fondateur de tout ce qui va être la dynamique de la construction de l'idée d'Europe, ou de la mise en pratique de l'idée d'Europe sur le continent. C'est le congrès de La Haye qui, pour tous les Européens, est d'une certaine façon l'acte de naissance de cette dynamique européenne. Congrès de La Haye, 7, 8, 9 mai 1948. Au Rieserzaal, c'est-à-dire la salle des chevaliers à La Haye, à ce moment-là, en mai 48, il faut bien comprendre, hein, on est 3 ans quasiment jour pour jour après la signature de la fin des opérations militaires sur le théâtre occidental de la Deuxième Guerre mondiale, 3 ans après la fin de cette Deuxième Guerre civile européenne, se réunissent près de 1000 personnes qui sont originaires et qui proviennent de tous les pays d'Europe occidentale. On est au tout début de ce que Churchill appelle le début de la guerre froide et du fameux rideau de fer, hein, de Mourmansk à l'Adriatique, selon les propos célèbres de Churchill. On est à quelques mois de ce qui va être le blocus de Berlin par les Soviétiques. Mais il y a des Occidentaux, mais aussi des représentants d'un certain nombre de pays qu'on appelle désormais, qu'on va appeler pays de l'Est, et qu'on va appeler après 1989 pays d'Europe centrale et orientale. Ces 1000 représentants, ils ne représentent pas des États. Ce n'est pas une réunion diplomatique. Ce n'est pas une réunion interétatique. Ce sont des individus qui sont originaires de différents milieux. Il y a des politiques qui sont d'ailleurs en activité ou dans l'opposition. Exemple, en activité, il y a les composantes de ce qu'on appelle, sous la France de la 4e République, les gouvernements de troisième force, hein, c'est-à-dire des socialistes de la SFIO, des démocrates chrétiens du MRP, des radicaux du Parti radical. Hein, à cette époque-là, les socialistes et SFIO, les centristes, démocrates chrétiens et les radicaux gouvernent ensemble. Hein, mais je vous raconte une histoire passée. Hein, il va y avoir ailleurs Churchill, qui représente l'opposition, par exemple, au Royaume-Uni, puisque le gouvernement et le Premier ministre s'appellent Clément Attlee. Il va y avoir des Italiens. Il y a même des Espagnols anti-franquistes, qui sont des grandes figures de la pensée et de la promotion de l'Europe. Par exemple, quelqu'un qui est une grande figure, qui s'appelle Salvador de Madariaga. Alors bon, il est connu des spécialistes, mais il va être le premier recteur du Collège européen de Bruges, Salvador de Madariaga. C'est un grand intellectuel espagnol qui a été ministre de la République espagnole et qui est totalement antifranquiste, bien sûr, et qui est, pour la petite histoire, le beau-père de Javier Solana, que vous connaissez aujourd'hui. Et puis, il va y avoir, bien sûr, des représentants du Benelux. Bon. Et puis, encore une fois, quelques Hongrois, quelques Tchécoslovaques et quelques Polonais. Et puis, il va y avoir également des intellectuels. Par exemple, on va trouver Raymond Aron, hein, qui participe de ce sommet de La Haye, cette rencontre de La Haye. Et La Haye va être, d'après tous les témoignages, une sorte de moment fondateur de l'enthousiasme pan-européen, avec des figures comme Denis de Rougemont, grand intellectuel franco-suisse. Hein. On est en présence d'individus pour qui l'Europe, qui doit se constituer et qui doit se construire, est la meilleure réponse pour éviter que la tragédie ne recommence. Tous ces hommes et femmes se disent « il y a eu une erreur fondatrice qui a été commise en 1919, ça a été évidemment l'humiliation de l'Allemagne et la logique de l'Allemagne paiera. Ça a été les traités, Versailles, mais tous ceux qu'on oublie un peu, Trianon, Sèvres, Saint-Germain-en-Laye, etc. Ça a été d'une certaine façon l'explosion de l'Europe en temps de paix, retrouvée par rapport à la boucherie de 14-18, et ça porte en germe les événements à partir de 1933, bien sûr, et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale à partir du 1er septembre 1939. Donc, ne pas refaire les mêmes erreurs qu'une trentaine d'années auparavant. Deuxième idée, alors là, c'est là que les débats interviennent entre ces pro-européens. Qu'est-ce qu'on va construire comme Europe? Et là, il y a deux écoles, les unionistes, comme on dit, et les fédéralistes. Bon, tout ça, ça bourgeonne, ça fonctionne, etc. Et un an après, 5 mai 49, à la suite d'un intense ballet diplomatique, 5 États... qui ont précédemment signé le traité de l'Union de l'Europe occidentale, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg et les Pays-Bas, proposent à 5 autres l'Irlande, le Danemark, la Norvège, la Suède, j'en oublie toujours un, ça doit être l'Islande, propose à 5 autres de rejoindre, de créer une structure qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Voilà. Structure intergouvernementale destinée à couvrir tous les champs possibles, la culture, les droits de l'homme, le social, sauf même l'économique, sauf une dimension qui est exclue, la défense. Cette institution, le Conseil de l'Europe, va fonctionner sur deux piliers, est prévue pour fonctionner sur deux piliers, un comité des ministres qui représente les ministres des Affaires étrangères, constitué des ministres des Affaires étrangères des États membres, ou des ambassadeurs les représentants, et puis une assemblée parlementaire, qui est en fait une assemblée au second degré, composée de délégations des parlementaires nationaux. 5 mai 49, traité de Londres, 10 États qui se réunissent. Première réunion du comité des ministres, 8 août 1949, à Strasbourg, dans la grande aula de l'université. Deux jours après, première réunion de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et là, c'est une fête absolument indescriptible. Dans Strasbourg, il y a un monde fou. Les photos d'archives, les images de l'INA sont absolument étonnantes. Et tout cela se fait avec des personnalités qui ont été, d'une certaine façon, les grands vainqueurs de la résistance au nazisme et au fascisme. C'est-à-dire, vous avez bien sûr Churchill, mais vous avez Léon Blum qui va prononcer un discours absolument étonnant. Il n'est pas très loin de mourir. Et là, il y a un discours tout à fait pathétique. La présidence d'honneur est assurée par Édouard Herriot, mais vous avez des personnalités comme M. Brugmans, le néerlandais, Paul-Henri Spaak, Antonio Alcide de Gasperi, qui sont véritablement les figures tutélaires de cette époque. Et puis, l'Assemblée parlementaire, elle se réunit deux jours après, encore l'émotion est très grande, et deux jours avant, le comité des ministres, sa première résolution des représentants des 10 États membres a été de proposer à deux États de rejoindre la troupe, si je puis dire, et ces deux États sont la Grèce et la Turquie, qui répondent positivement le soir même. Bon, je vais le dire tout de suite, comme ça sera fait. Voilà qui, de mon point de vue, clôt et devrait clore définitivement toute réflexion destinée à faire dans la pusillanimité du discours est-ce que la Turquie fait ou non partie de l'Europe. Voilà le type même de fausse question, puisque la Turquie, la question n'est pas de savoir si elle doit rentrer dans l'Europe, elle en est membre constituante du Conseil de l'Europe, quasi constituante à le premier jour, on va dire, depuis le 8 août 1949. Voilà, en tout et pour tout, ça va faire 60 ans et quelques mois que cette question a été réglée, tranchée. Après, j'allais dire, comme disait le grand général de Gaulle, l'intendance devrait suivre. Or, il se trouve que l'intendance, manifestement, a du mal à suivre, mais c'est sans doute que il y a des mauvaises intentions derrière l'intendance. Bon, progressivement, cette institution va monter en puissance et en, on peut dire, moins de 10 ans, moins de 10 ans pour les deux principaux textes et un petit peu plus, elle va accoucher de textes référentiels. Un an après sa création, en 1950, ouvert à la signature une convention fondamentale qui s'appelle la Convention pour la sauvegarde des libertés et des droits de l'homme. C'est ce qui va amener la naissance de la Cour européenne des droits de l'homme. Un an après la création d'une organisation, d'une institution, voilà un texte qui est, sur lequel je vais revenir, qui est étonnant, de modernité, d'audace, on peut même dire aussi presque de courage, compte tenu de ses conséquences à venir, juridique. Cour européenne des droits de l'homme, 1950, ouverture à la signature. Il faut qu'un certain nombre minimum d'États ratifient. Et ça va être le cas. En 1953, la Convention européenne des droits de l'homme rentre en vigueur. Petite précision, l'Allemagne, qui n'avait pas réglé le statut de la RFA, de la SAR, etc., adhère au Conseil de l'Europe pour des questions juridiques uniquement à partir de 1950. Deuxième grande convention tout à fait étonnante, extrêmement riche dans son contenu, Là aussi, ouverte à la signature en 1953, qui rentre en vigueur en 1955, la Convention européenne de la culture, Convention culturelle européenne, qui est un texte que je vous invite à revoir ou à relire. Hein, c'est facile, c'est sur le site internet du Conseil de l'Europe. Et c'est un texte qui est extrêmement moderne, lui aussi, parce qu'il considère que la culture est un des droits de l'homme. Et que les droits de l'homme, ce n'est pas simplement une question de protection, d'habeas corpus, d'interdiction des internements arbitraires. Ce n'est pas simplement l'interdiction de la peine de mort, encore que, j'en dirai un mot dans un instant, c'est fondamental et c'est un des plus, par exemple, du Conseil de l'Europe. Les droits de l'homme, c'est aussi le droit à la culture, c'est aussi le droit, comme on dit simplement et de manière très raccourcie, de se coucher moins bête qu'on se lève, c'est-à-dire d'avoir le droit à apprendre à lire, d'avoir le droit à s'imprégner de tout ce qui va faire les images, le cinéma, le théâtre, etc. Troisième grand texte, 1961, Convention de Turin, la charte sociale européenne qui va être révisée en 1999. Une charte sociale qui, en 61, introduit la dimension de la protection des travailleurs, de l'interdiction du travail pour les mineurs, etc., etc. Là encore, c'est un texte qui est étonnamment fort et progressiste. Alors on va dire, mais c'est pas mal pour une institution 10 ans ou 12 ans, hein, 49-61, voilà l'œuvre qui est en marche. La Convention européenne des droits de l'homme, alors quand on regarde, on peut dire, mais c'est une déclaration universelle de plus, hein, déclaration de l'ONU, 1948, René Cassin, on s'en souvient. Oui, mais la grande nouveauté, c'est que concomitamment à ce texte, les États qui vont signer et ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, au passage, la France ne l'a ratifiée qu'après 1974, cette Convention européenne des droits de l'homme, et pratiquement l'a fait rentrer dans son corps de normes après 1981 grâce à Robert Badinter. Les États qui vont signer ce texte, ils vont, d'un même coup, accepter de se soumettre au regard, au jugement et au risque de condamnation d'un organisme de contrôle. Ça, c'est tout à fait exceptionnel, parce que ça n'existe pas à l'ONU, même si la Cour pénale internationale, qui a été créée bien plus tard, peut être envisagée dans une perspective en ce sens. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, c'est, si vous voulez, le bras armé, c'est la concrétisation de ce texte qu'est la Déclaration universelle, la Convention européenne des droits de l'homme, je vais y arriver. Cour européenne des droits de l'homme, le siège est juste à côté du Palais de l'Europe à Strasbourg. C'est un des organes du Conseil de l'Europe et c'est quelque chose d'exceptionnel puisque, je vous le rappelle, tout ressortissant d'un pays membre du Conseil de l'Europe, pour vous donner une idée, ça fait 800 millions de personnes. De Reykjavik à Vladivostok, de Mourmansk à Faro au Portugal et du Cap Nord à Malte et vous mettez dedans bien sûr Chypre, vous mettez dedans la Turquie, vous rajoutez même les États du Sud-Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. 800 millions de personnes qui, lorsqu'elles ont épuisé tous les recours à l'intérieur de leur État dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils résident, sont susceptibles, une fois qu'ils ont épuisé toutes ces voies juridictionnelles, de porter un recours à la Cour européenne des droits de l'homme et donc de faire condamner leur État en tant que citoyen du Conseil de l'Europe. Je peux vous dire que les condamnations, elles tombent et elles dégringolent. Et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est absolument une mine fabuleuse, hein. Cette cour est composée d'un représentant par État, 47 juges. Elle est présidée par quelqu'un qui s'appelle Costa, qui est le juge français, hein, qui est élu depuis à la présidence depuis 4 ans, temps passe. Et donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Ça, c'est pour les droits de l'homme. Alors, le temps passe. Nous arrivons dans les années 60. Et là, dans les années 60, à côté de la cigogne de Strasbourg, va apparaître un autre oiseau qui s'appelle le coucou de Bruxelles. Ben, c'est comme ça que j'ai fait la métaphore. Ce n'est pas méchant pour l'Union européenne ou ce qui s'appelle à ce moment-là les communautés économiques européennes. Mais à partir de mars 57, se constitue donc cette Europe des six qui va, alors à l'inverse du Conseil de l'Europe, prendre une démarche complètement différente et qui va considérer que... Bah, les grandes idées, les grands principes, d'une certaine façon, le souci de l'âme, hein, c'est une expression que j'emploie à plusieurs reprises dans mon ouvrage, parce qu'elle n'est pas de moi, et donc je vais en citer l'auteur qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Jan Patočka, qui est un grand philosophe tchèque, qui est mort sous les coups de la police politique en 1977 à Prague, qui était un grand ami de Jacques Derrida, qui a été le cofondateur de la Charte 77 avec Václav Havel. Et Jan Patočka dit « Ce qui manque à l'Europe en 77, hein, c'est le souci de l'âme. Hein. » Eh bien, l'Union européenne, maintenant, les communautés économiques européennes de 57, le marché commun, etc., la politique agricole commune, la fameuse politique de la chaise vide du général de Gaulle dans les années 66-67 qui va aboutir au compromis de Luxembourg, le fonctionnement de l'Europe des six, quid de l'adhésion ou pas du Royaume-Uni, le premier référendum créant une extension et un passage de 6 à 9 en 1973 avec l'intégration du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark dans la communauté européenne. Bien, tout cela, ça va être de la matière, du matériel. Ça va être de l'économique, ça va être des normes, ça va être, alors évidemment, hein, la libre circulation de des marchandises, des biens, et puis à terme, après, des capitaux. Et puis, il faut bien le dire aussi, des personnes, parce que quand vous allez vous rendre compte qu'on peut passer de France en Allemagne sans s'arrêter au pont de Kiel et à Strasbourg et qu'il ne va plus y avoir la moindre représentation de papier, etc., dans ce qu'on appelle le grand marché intérieur, bah ça va être un plus considérable pour la circulation des citoyens. Mais tout ça, ça va se faire à partir de l'entrée, si vous voulez, du biais de la matière, de la marchandise et des objets. Et pendant ce temps-là, bah, le Conseil de l'Europe, il va finalement ressembler à cette phrase terrible d'un général de Gaulle dans une conférence de presse célèbre en 1961, lorsqu'il avait évoqué l'Europe du Volapük et de l'espéranto. Il va ressembler, le Conseil de l'Europe, avait dit de Gaulle, à une structure endormie au bord du Rhin. Voilà, c'est un destin un peu tragique, on va dire, un peu triste, qui ne va pas empêcher l'organisation de continuer de fonctionner et de traiter des choses, et en particulier d'avoir un comportement tout à fait intéressant dans le dialogue qui va précéder la fin des dictatures fascistes portugaises et espagnoles, avec une discussion et des réseaux très forts qui vont être constitués avec des acteurs de la démocratie qui vont apparaître lorsque Franco va lui disparaître. Je citerai tout simplement le premier ministre, celui qui va devenir premier ministre, qui s'appelle Soares, mais également Mario Soares au Portugal, lui-même contacté par le Conseil de l'Europe, bien avant, à l'époque de Salazar, mais surtout après 68, à l'époque de Marcelino Caetano, qui est l'avatar de Salazar, qui va être déposé par les capitaines d'avril en avril 74. Donc, précisément, le Conseil de l'Europe, structure qui, on va dire, continue à bas bruit, à fonctionner, qui fait des choses, qui crée en 1957 une structure essentielle qui s'appelle le Congrès des communes et régions d'Europe. Structure tout à fait fascinante, qui ressemble aujourd'hui à 200 000 collectivités territoriales, dont le premier président va être d'ailleurs Jacques Chaban-Delmas, et qui va constituer, là encore, une Europe avec un coup de génie, qui n'est pas l'Europe des États, qui n'est pas encore l'Europe des citoyens, mais qui est l'Europe des corps intermédiaires, et qui pose la problématique de l'autonomie des collectivités territoriales, tenez-vous bien, en 57, 58, 59. C'était quand même pas stupide comme idée. Voilà, donc voilà une sorte de laboratoire d'idées, un think tank qui en même temps produit des choses, qui produit des arrêts tout à fait extraordinaires, la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier un très bel arrêt À l'égard du Parti communiste en République fédérale d'Allemagne, un très bel arrêt sur les châtiments corporels dans les écoles anglaises dans les années 60, et puis d'autres. Et puis, avant même que cette problématique arrive, comme on dit, sur l'agenda politique, des décisions jurisprudentielles extrêmement courageuses sur l'homosexualité, sur les différences, etc. Toujours est-il qu'en même temps, ce qui est sous les feux de la rampe, c'est à partir des années 70-80, le chèque anglais, le comportement de Maggie Thatcher, les marathons bruxellois sur la politique agricole commune, les caméras qui sont à la sortie pour savoir quels vont être le montant des subventions, etc. Et ça, ça occupe la quasi-totalité de l'agenda médiatique. Arrive 1989, et alors là, les choses vont, après une période d'enthousiasme pour le Conseil de l'Europe, première décennie, une période de solitude, deuxième décennie, et même troisième décennie. En 1989, là, les choses vont bougrement changer, puisqu'il va se passer, et en fait, les 20 ans, quelque chose d'étonnant, c'est la rupture absolue de l'ordre de Yalta, dont il faut quand même dire un mot. On sait aujourd'hui que toute la classe politique en Europe occidentale de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 1989 s'était complètement habituée à ce schéma mental qui était une Europe coupée en deux. D'une certaine façon, cette affaire-là arrangeait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de stabilité qui était certes tout à fait préjudiciable, comme on dit, pour celles et ceux qui étaient de l'autre côté de ce qu'on appelait le rideau de fer, une vraie méconnaissance, une vraie ignorance. Je vous rassure, hein, à maints égards, il aura fallu du temps pour que cette ignorance disparaisse. Hein. L'idée, c'était de dire, voilà, les pauvres, hein, ils sont régulièrement soumis à des émulsions, à des soubresauts, à des révoltes, à des manifestations réprimées dans le sang. Berlin 53, Poznan 56, Budapest 56, Poznan à peu près à la même époque. Et puis après 68, bien sûr, Prague. 68, Varsovie, 70, Gdansk, Szczecin, et puis 1980, le chantier naval de Gdansk et Solidarność. Bon, voilà, les Occidentaux se mobilisent au cas par cas, au coup par coup, et puis finalement, rien ne bouge. Et puis en 1989, là, ça va être une sorte de, presque dire, selon la théorie de la tectonique en plaques, hein, un déplacement brutal de la plaque orientale, et ça va provoquer un séisme politique, évidemment à l'est ou au centre, hein, mais également à l'ouest. Le hasard a voulu pour cette organisation qu'est le Conseil de l'Europe qu'au printemps 89, ce soit une femme qui devienne secrétaire générale de cette organisation et qui va succéder à un excellent secrétaire général du Conseil de l'Europe qui s'appelle toujours Marcelino Herrera, qui est un diplomate et homme politique espagnol qui a fait énormément de travail de 84 à 1989, on pourrait dire en préparation, hein, de manière très discrète mais efficace. Et puis donc Catherine Lalumière, puisqu'il s'agit d'elle, va devenir secrétaire générale au mois de mai 1989. Et elle va être attrapée d'une certaine façon en tant que secrétaire générale par l'histoire, puisque précisément c'est elle qui va presque de plein fouet se prendre les bouleversements intervenus en Europe centrale et orientale. Alors j'ai eu l'occasion évidemment de discuter avec elle sur cet aspect-là et sur cette période-là pour mon livre. Ce qui ressort du témoignage direct, puisqu'elle a été 5 ans secrétaire générale, et qu'elle a vu arriver au fur et à mesure tous les États qui sont rentrés 15 ans plus tard dans l'Union européenne, elle dit les choses de manière assez simple. Aucun homme politique en Europe occidentale ne savait quoi faire de ces nouveaux États. Elle m'a raconté la venue pour la première fois du président de la Commission de Bruxelles au Conseil de l'Europe, Jacques Delors, qui a prononcé un discours remarquable en octobre 89 et qui était complètement, on pourrait pas dire comme le lapin devant le serpent, mais qui était complètement interrogatif sur comment répondre à ce qui va être dans les mois à venir, puisque je vous rappelle que dès le printemps 89, la Pologne s'était dotée pour la première fois d'un premier ministre non communiste, Tadeusz Mazowiecki, et que il y avait eu des élections semi-libres, et que pendant ce temps-là, les gens de la RDA transitaient par la Hongrie, qui avait elle-même enlevé le grillage, et que les choses bougeaient à grande vitesse. Et Delors, mais Mitterrand, mais Maggie Thatcher, on le sait aujourd'hui, vous savez, pour les 20 ans, les choses ressortent, et même Helmut Kohl voyait arriver pratiquement un bolide, hein, constitué par ces États d'Europe centrale et orientale, qui était d'une part fermement décidé à ne pas rester une fois de plus sur le bas-côté de la route, et d'autre part qui voulait être reconnu dans le processus qui avait été le leur de lutte pour les droits de l'homme et l'état de droit et la démocratie. Et là, ça a été d'une certaine façon, on m'a dit à Strasbourg, il y a eu la période des 10 glorieuses, hein. Ça a été une période tout à fait riche pour le Conseil de l'Europe, ça a été l'adhésion de nouveaux États, avec tout ce que ça signifie comme culture différente, comme apport d'une histoire fabuleuse, hein, qui est l'histoire de l'Europe centrale et orientale, et qui d'une certaine façon, et ça qui était fascinant, se mettait à faire le pont entre l'Europe occidentale et la Turquie, qui se trouvait avant complètement décentrée, isolée par rapport à ce processus. Et là, je voudrais faire une petite incise juste historique et qui me permet de revenir à la Turquie. Il se trouve que Jacqueline Madrel et Ledru sont dans la salle. Et lundi, effectivement, il y a eu une conférence tout à fait remarquable de Michel Rocard, que je ne prétends surtout pas reprendre, parce que j'en aurais ni le talent ni la capacité. Mais ce qui est fondamental et qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en Europe centrale et orientale, dans ce qui constituait la Mittel Europa du 19e siècle, et Rocard rappelait très bien que la Turquie était partie au traité de Vienne de 1815, qui a été fondateur sur toute la carte européenne jusqu'en 1918, quand on est en Europe centrale et orientale, on est près de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous pouvez, dans un cercle qui fait pas plus de 300 km de rayon, pratiquement toucher au cœur de l'Europe, et dans les 300 km de rayon, ça dépendra, vous allez me dire, où vous allez mettre la pointe du compas, mais vous allez pratiquement être à la limite, par exemple, de la Turquie. D'ailleurs, les nazis, ainsi, ne s'y étaient pas trompés. Pour celles et ceux qui sont allés à Auschwitz, vous avez cette carte terrifiante qui montre Auschwitz, qui, vu de Bordeaux, apparaît comme au bout du bout du bout du monde, alors qu'Auschwitz est au centre du monde. C'est pour ça que les nazis avaient choisi le lieu. Au centre du monde, parce que ça permettait pratiquement, à l'époque, hein, indépendamment du trafic de guerre, mais ça permettait en quelques heures de train, 24 heures, 48 heures maximum, de ramener la totalité des Juifs d'Europe dans ce lieu, où que vous soyez, là encore, de Narvik à Thessalonique ou en Italie. Donc, l'Europe centrale, il faut bien reconnaître que quand on dit centrale, c'est au centre. Et c'est une tautologie ou un truisme, mais ça, il faut se le mettre dans la tête. Et l'Europe centrale s'est donc retrouvée comme le trait d'union entre ce qui fait, pour le coup, la richesse de l'Europe, dans sa totalité, dans sa globalité, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme une culture, qui est une culture composite, helléno-judaïco-musulmane, avec en plus ce surcroît tout à fait intéressant, qui est l'esprit des Lumières, et qui est la dimension de la laïcité, qui est en particulier la pensée forte, structurante, de la Turquie kémaliste et de la Turquie consécutivement à Kemal Atatürk. Donc, vous avez là, finalement, avec le Conseil de l'Europe, qui, en 10 ans, va accueillir à peu près autant d'États qu'il a mis à accueillir entre 1949 et 1989, 23 États membres en 89, 47 au début des années 2000. Et donc, vous avez là une carte qui fait que, d'une certaine façon, la fameuse phrase de Jean-Paul II disant « l'Europe peut enfin respirer sur ses deux poumons », eh bien, elle s'est trouvée, acquise, réalisée, dans une dimension qui n'est pas une dimension marchande et qui n'est pas une dimension purement matérialiste, mais qui est une dimension, on peut employer le mot, philosophique, c'est-à-dire finalement ramenant au cœur du débat une problématique qui est celle de, du combat, on va dire, pour un certain type de droit, pour un certain type de comportement, pour, par exemple, faire que la loi d'une religion ne soit pas une loi dominante, pour faire que les références éthiques soient renvoyées dans la sphère privée, pour faire que, par exemple, là encore, sur la totalité du continent européen, y compris en Russie, la peine de mort soit de jure ou de facto abolie. Et que ça, c'est un exemple unique sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris en Russie, je dis bien, il n'y... Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des exécutions et tout ce qu'on peut imaginer en Russie, mais aujourd'hui, mais ça c'est autre, enfin c'est un débat qui se pose en même temps, hein, et la place de la Russie au Conseil de l'Europe, elle n'est pas simple, évidemment. Mais de fait, cette dimension qui fait qu'en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, y compris en temps de guerre, la peine de mort est interdite, ben, ça n'existe pas ailleurs sur la planète. Et puis, je terminerai en disant, finalement, ce qui est intéressant dans cette image, dans cette fonction du Conseil de l'Europe, qui, encore une fois, se distingue des autres structures ou des autres institutions, c'est que ça fonctionne fondamentalement sur le consensus. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un immense lieu de négociations diplomatiques intenses. Si vous avez ouvert le journal Le Monde de samedi dernier, il y avait un papier tout à fait intéressant et passionnant de Piotr Smolar sur l'élection du futur secrétaire général du Conseil de l'Europe. Alors là, qui pour le coup sort de 5 ans d'un très 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 mauvais passage avec un Anglais, Terry Davis, qui était en dessous de la médiocrité en tant que secrétaire général. En revanche, il y a deux candidats qui sont deux poids lourds, présentés par le comité des ministres, c'est-à-dire par l'ensemble des États adhérents. Et ces deux candidats sont un Polonais, Wojciech Timoszewicz, qui a été Premier ministre, et puis un Norvégien qui s'appelle M. Jagland. Tous les deux anciens Premiers ministres, tous les deux d'ailleurs, ils se trouvent membres du Parti socialiste dans leur pays respectif, et qui sont véritablement une chance pour cette organisation. Et je terminerai, parce que j'ai été long, en disant que le grand philosophe Husserl, hein, père de la phénoménologie que l'on connaît, en 1935, dans une conférence prononcée à Prague, a eu une phrase tout à fait étonnante, disant, en 1935, hein, 2 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, quelques mois avant l'intervention dans les Sudètes, quelques mois avant l'Anschluss, et évidemment 4 ans avant le déclenchement du deuxième conflit mondial. Et Husserl dit « Le plus grand péril qui guette l'Europe et qui menace l'Europe en 1935, c'est la lassitude. » Et je trouve que le Conseil de l'Europe, ça peut être une formidable réponse à cet esprit de lassitude que l'on constate définitivement dans les peuples d'Europe, à l'égard de l'Europe matérielle, à l'égard de l'Europe marchande, à l'égard de l'Europe, j'allais dire, concrète, dont il ne convient pas, comme on dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne s'agit pas de dire tout ça, beurre, c'est pas beau, c'est de la matière et c'est pas correct. Mais en tout état de cause, le Conseil de l'Europe, par le supplément d'âme qu'il permet de réintroduire, si on s'inspirait en quelque sorte de son œuvre, du fait qu'encore aujourd'hui, au bilan, il y a 210 conventions européennes, des traités qui ont été signés, charte des langues minoritaires, la France vient enfin de se décider à ratifier ça, comme si c'était hyper dangereux, évidemment, pour le corps de troupes que l'on parle occitan, basque et breton. Hein. Bon, je disais récemment dans une revue publiée par Historia et Ouest-France qu'en 14-18, les Bretons qui parlaient breton, mon père étant de Saint-Malo, je me sens autorisé à le dire. D'autres font des blagues sur les Auvergnats, mais moi je peux le dire. Les Bretons parlant breton, en 14-18, le haut commandement français avait peur de la transmission des ordres chez les hommes de troupes. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup plus de morts dans l'infanterie parce que c'était les régiments à qui on ne demandait rien autre chose que mordre que d'avancer. Hein. Donc c'est ceux qui se sont sont fait décaniller, un peu comme les Basques d'ailleurs, les plus tôt, hein, dans le conflit de 14-18, pour des problèmes de langue. Mais toujours est-il que la France a, semble-t-il, réglé son problème avec son français bien français et accepte de signer la charte des langues minoritaires. La charte de l'autonomie locale, remarquable texte, porté par le congrès du Conseil de l'Europe sur les congrès des régions, eh bien, là encore, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Si l'Europe pouvait tout simplement reprendre cette idée, faire en sorte, vous savez, que le drapeau bleu avec les 12 étoiles jaunes, c'est pas le drapeau de l'Union européenne, c'est le drapeau du Conseil de l'Europe, que le Conseil de l'Europe a donné à l'Union européenne. L'hymne à la joie de Beethoven, c'est pas l'hymne de l'Union européenne, c'était l'hymne du Conseil de l'Europe dans les années 70, là encore, offert à l'Europe tout entière. Eh bien, revenir en quelque sorte à l'esprit de Strasbourg et faire en sorte que le coucou ne fasse pas toujours son nid dans le nid des autres, ça serait sans doute une manière de lutter contre la lassitude qui guette l'Europe aujourd'hui.